Les enfants de Chronos.
Bonjour, je suis Germain Cuvillier du service départemental d'archéologie de l'Oise. Bienvenue dans notre quatrième épisode de la série consacrée au site de Chanlieu. Pour ceux qui n'ont pas entendu les premiers épisodes, nous avons présenté plusieurs sites historiques se trouvant au niveau du hameau de Chanlieu. Ce hameau est surtout connu d'une part pour ses ruines romaines et d'autre part pour son église en ruine. Il est situé au sud de la forêt de Compiègne, sur le plateau qui domine la vallée de l'Automne. Il fait désormais partie de la commune de Rouy. Aujourd'hui, nous allons, à l'occasion de cet épisode, quitter le plateau de Chanlieu pour aller sur l'un de ses flancs, au niveau de la commune de Rouy. Le temps de vous faire le récit d'une découverte surprenante dans la deuxième moitié du XIXe siècle, celle d'ossements humains qui seraient datés du néolithique ou de la protohistoire, au niveau du lieu dit du Mont Maigre, dans une petite cavité sépulcrale que l'on a rapidement baptisée la Grotte des Morts. Alors le Mont Maigre se trouve à quelques centaines de mètres du cœur du village et correspond effectivement à un mont, une colline, placée sur le flanc nord de la vallée l'Automne et qui culmine à environ 80 mètres d'altitude. La grotte correspond en réalité à une toute petite excavation dans le banc calcaire de 4 mètres de large, 3 mètres de profondeur et de 50 cm de haut. En 1860, M. Hazard, et c'est bien son nom, propriétaire de terrain au niveau du Mont Maigre, fit entreprendre le déblayage de la petite cavité pour la transformer en abri. Au niveau de l'ouverture, les ouvriers dégagèrent une vaste dalle qui recouvrait un premier squelette humain, étendu de tout son long dans un lit de sable jaune. La suite des travaux permit de se rendre compte qu'au-dessous de ce premier squelette se trouvait une grande quantité d'ossements humains disposés en vrac, de telle sorte qu'ils formaient sur toute la largeur de la grotte une couche de plus d'un mètre d'épaisseur. La grotte sépulcrale de Rouy, rapidement rebaptisée Grotte des Morts, a manifestement été aménagé pour servir d'ossuaire, c'est-à-dire de lieu pour entreposer les ossements humains. Alors sachez que ce mode d'inhumation n'est pas inédit, et on en trouve d'ailleurs d'autres exemples, notamment dans la vallée de l'Automne, à Glaigne ou à Sérimagneval, pour ne citer que. Ici, on a manifestement creusé dans la roche calcaire pour agrandir une cavité naturelle et réaliser une fosse de 3 mètres de long, large de 2 mètres et profonde de 1 mètre environ, pour ensuite y déposer régulièrement des ossements humains. La sépulture était ensuite fermée par des dalles recouvrant directement les ossements. Alors 21 crânes, des os longs, des vertèbres entassés sans aucun ordre, étaient associés à des ossements très fragmentés d'animaux, notamment de chèvres et de moutons, et enfin associés à quelques débris d'objets archéologiques, sur lesquels nous avons peu de renseignements et qui n'ont pas été conservés. Les restes humains correspondent à peu près à une cinquantaine d'individus. Hommes, femmes, enfants et adolescents. Peu de temps après la découverte, en 1864, l'anthropologue Paul Broca est le premier à avoir examiné les ossements. Il donnait l'explication suivante, et toujours acceptable. L'existence du squelette entier qui occupait la couche superficielle prouve que la caverne de Rouy n'était pas seulement de ces ossuaires où l'on transportait les os exhumés d'un cimetière, mais que c'était réellement un lieu de sépulture. Ce squelette est celui du dernier individu inhumé dans la caverne. Il est probable qu'avant celui-là, il y en avait un autre placé de la même manière et dont les os ont été déplacés et entassés dans l'ossuaire pour faire place au nouveau venu. Il est probable encore que celui-ci aurait été, comme le précédent, rejeté et confondu à son tour dans l'ossuaire si un nouveau corps avait dû être introduit dans la caverne. Si ces suppositions sont exactes, il est permis de croire que la caverne de Rouy était la sépulture d'une toute petite tribu, peut-être même d'une seule famille. Car, avec un mode d'inhumation pareil, une caverne aussi petite ne pouvait être destinée à recevoir fréquemment des corps. Et dès lors, le nombre considérable des ossements qu'on y a trouvés tend à faire admettre que cette sépulture a dû servir un assez grand nombre de générations. Alors, voilà pour la description de la découverte. Mais qu'en est-il de la datation de ces restes humains? Eh bien, la datation précise de cette grotte sépulcrale est difficile. A priori, peu d'objets archéologiques ont été découverts, et nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus. On sait juste qu'il s'agissait de poteries grossières, d'outils en silex taillés, haches polies, couteaux. Ainsi, ce type de mobilier et le mode d'inhumation dateraient les ossements du néolithique ou de la protohistoire. Cependant, la mention de la découverte à proximité d'une belle cuillère en bronze a priori gallo-romaine pose question. Faute de pouvoir réexaminer ces objets, il serait en revanche possible de prélever aujourd'hui des échantillons sur certains ossements afin de les dater au radiocarbone, comme le C14. Cela serait un moyen simple et précis qui permettrait de savoir s'il s'agit d'individus ayant vécu au cours du néolithique, c'est-à-dire entre moins 6000 et moins 2200 avant Jésus-Christ, ou au cours de la protohistoire, c'est-à-dire au cours de l'âge du bronze ou du fer, entre moins 2200 ou moins 50. Beaucoup de ces ossements sont aujourd'hui perdus, mais certains ont été confiés par M. Hazard à la Société d'anthropologie de Paris et sont désormais conservés à l'Institut de paléontologie humaine. Ce sont ces ossements qui furent une première fois examinés par l'anthropologue Paul Broca en 1864, 4 ans après leur découverte. Ce dernier remarqua plusieurs caractéristiques particulières, notamment au niveau des crânes. Il vit en eux les représentants d'un nouveau type humain, du néolithique, qu'il finit même par appeler la race d'Oroui. Par la suite, ces ossements servirent régulièrement de comparaison pour d'autres études d'ossements humains découverts ailleurs, mais ceux d'Oroui ne furent pas réexaminés. En fait, il faut attendre les années 50 et l'étude de Louis Trouette, qui est alors aide d'anatomie à la faculté de médecine de Toulouse, pour en finir avec l'idée d'une race particulière à Oroui. Il réexamine avec d'autres l'ensemble des ossements conservés à l'Institut de paléontologie humaine, avec des méthodes scientifiques plus actuelles. Pour lui, le verdict est sans appel. Les squelettes d'Oroui, qu'ils datent du néolithique ou de la protohistoire, n'appartiennent pas à un genre humain particulier ou une race, mais ils partagent de nombreux points communs avec les populations du néolithique connues ailleurs en France à cette époque, et avec l'homme actuel, européen actuel, d'une manière plus générale. Son étude permet en outre de distinguer, notamment à partir des crânes, 26 individus, dont 11 hommes, 5 femmes, 3 enfants et adolescents, et 7 individus indéterminés. Les sujets adultes sont relativement jeunes et sont tous morts entre 20 et 40 ans. Il n'a pas fait qu'étudier les crânes, et son étude s'appuie également sur le réexamen de mandibules, de dents et de quelques os longs, de jambes et de bras. Cependant, il note comme Paul Broca quelques particularités, notamment au niveau des crânes, dont certains paraissent légèrement déformés. Alors, plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces déformations crâniennes, mais deux d'entre elles paraissent plus vraisemblables. Ces déformations artificielles, volontaires ou involontaires, sont liées au port d'un type de coiffure, utilisant le port d'un bandeau serré sur la tête, ou à une activité particulière, où l'on porte de façon très répétée des charges lourdes en utilisant par exemple un sac équipé d'une lanière que l'on place sur le front ou sur le haut du crâne. La deuxième explication pourrait être d'ordre génétique. Il pourrait s'agir d'un caractère morphologique particulier qui se transmettrait de génération en génération par hérédité dans un groupe humain assez fermé, partageant un même patrimoine génétique et où la consanguinité a favorisé la transmission de cette particularité. Il faut préciser qu'on retrouve des déformations crâniennes ailleurs en Europe, et ça dès le néolithique et jusqu'à la fin du 19e siècle, dans certaines régions de France par exemple. La déformation crânienne peut d'ailleurs être une pratique volontaire, esthétique et culturelle. On retrouve cette pratique dans un certain nombre de cultures, sur tous les continents et à toute époque. Les exemples les plus connus sont ceux de déformations en Amérique du Sud, chez les Mayas. Sur notre continent, et plus proche de nous, on peut citer les déformations crânienne chez certains peuples germaniques, comme les Burgondes au cours de l'Antiquité, mais aussi dans de nombreuses populations médiévales. Certains crânes déformés ont d'ailleurs été découverts l'année dernière à Mouy, dans l'Oise, lors de la fouille d'un cimetière médiéval. L'examen du reste des ossements atteste que certains individus étaient relativement bien nourris, car bien musclés, mais de robustesse classique, comparativement à d'autres squelettes découverts en France et datés du néolithique ou de l'âge du bronze. Des individus aussi qui sont de bonne stature. Par ailleurs, peu de traces de pathologie, c'est-à-dire de maladie, ont été retrouvées sur les ossements et au niveau des dents. La population apparaît donc comme remarquablement saine, même si la moyenne d'âge des morts reste inférieure à 40 ans. Cette découverte montre comme il est précieux de pouvoir conserver les vestiges de fouilles archéologiques, notamment pour pouvoir les réexaminer et pour pouvoir affiner, voire corriger les interprétations scientifiques dans le futur. Ici, près d'un siècle après leur découverte, l'examen, grâce à des moyens plus modernes, a montré qu'il était faux de parler d'un type humain propre à Oroui. mais que l'étude de ces ossements pouvait néanmoins nous apporter des informations sur les modes de vie des populations humaines qui anciennement ont vécu dans la vallée de l'automne. Aujourd'hui, il faudrait, avec les moyens technologiques du XXIe siècle, dater par radiocarbone ces ossements, afin de savoir enfin s'il s'agit d'un groupe humain du néolithique ou bien de la protohistoire. En profiter également pour procéder à un nouvel examen, pourquoi pas génétique, si on retrouve de l'ADN. Cela nous permettrait de connaître les origines de cette population et de savoir s'il s'agissait d'une population fermée ou non. Voilà, c'était l'épisode consacré à la Grotte des Morts à Auruy. Je profite de cet épisode pour vous informer qu'un parcours de randonnée entre le village d'Auruy et les ruines gallo-romaines de Champlieu, en passant par le hameau, existe. Celui-ci permet de découvrir certains lieux évoqués au cours des différents épisodes de l'émission, consacrés à Champlieu. Et vous pourrez aussi découvrir d'autres lieux intéressants, comme le château de la Motte, l'église et les carrières d'Auruy. Le parcours proposé est téléchargeable sur Internet, sur le site oistourisme.com, et j'espère que certaines présentations de ces sites seront bientôt consultables sur Internet. Sachez par ailleurs que le service départemental d'archéologie de l'Oise propose désormais chaque année des visites guidées au moment des journées du patrimoine, en septembre, sur ce parcours.